Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible, décentralisée, à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Stéphane Croza et Quentin Duchemin.
Rebonjour, bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Graphite 94.9 ou sur le web graphite.net pour celles et ceux qui nous rejoignent cet après-midi. On se retrouve pour des émissions autour du cours WE01, Question and Web de l'Université de Technologie de Compiègne, dont le cours est librement accessible sur librecours.net. Pendant tout cet après-midi et puis mercredi prochain, des étudiantes et des étudiants viennent présenter le résultat de leur recherche du semestre, qui est articulé autour de grandes problématiques reliées au web et plus généralement au numérique. Pour cette deuxième émission de l'après-midi, on est en direct, donc en studio, avec deux étudiants. Bienvenue à vous, bonjour Noah et Hugo.
Bonjour.
Donc, en gros, le projet que vous avez fait, vous faites un site web où vous allez avoir peu ou prou le même contenu que ce que vous allez nous présenter aujourd'hui. Et l'idée, c'est qu'avec les idées d'éducation populaire et d'esprit critique en tête, vous avez pris un article que vous avez résumé, vous avez pris un concept du cours que vous avez vulgarisé, et puis ensuite vous avez essayé de produire une articulation entre les deux, et c'est à vous pour ce que vous avez choisi.
Donc, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Antenne pour présenter notre projet de l'UW01. Plus précisément, nous allons aborder la surveillance sur le web. Premièrement, nous parlerons de l'article que nous avons choisi et du thème que nous avons retenu de celui-ci. Puis nous expliquerons le concept du coup, qui est la bulle de filtre. Et enfin, nous articulerons les parties précédentes pour comprendre comment la surveillance de masse alimente directement notre enfermement informationnel.
Nous écoutons tout de suite un court extrait d'une archive d'actualité en juin 2013, au moment où le scandale Prism éclate dans les médias internationaux suite aux révélations d'Edward Snowden diffusées par France 2.
Renseignement accuse la NSA, les grandes oreilles de l'Amérique, de recueillir des centaines de milliers de données téléphoniques et sur Internet. Il a lui-même expliqué qu'il écoutait tout le monde à l'étranger, mais aussi sur le territoire américain.
Assis à mon bureau, j'avais le pouvoir légal de surveiller n'importe qui. Ça pouvait être vous, votre comptable, un juge fédéral et même le président si j'avais eu son adresse électronique.
Tous les jours, les ordinateurs surpuissants de la NSA sont au travail. Des logiciels sensibles à certains mots-clés, comme bombe ou attentat, peuvent déclencher une écoute. Sur Internet, toute navigation sur des sites suspects, l'utilisation de moteurs de recherche sur des produits chimiques, par exemple, et bien évidemment, l'échange de courriels sont repérés puis analysés.
L'exploitation des données consiste à rassembler un nombre énorme d'informations sur ce que vous faites, ce que vous avez acheté, qui vous contactez. Pour vous et moi, ces données mises bout à bout n'ont aucun sens. Mais grâce aux ordinateurs d'aujourd'hui, on peut analyser et isoler les informations pertinentes qui vont être essentielles pour la NSA, par exemple.
Même les photos prises par votre téléphone peuvent être surveillées.
Depuis les attentats du 11 septembre, une majorité d'Américains acceptent que leur vie soit surveillée. D'ailleurs, un sondage paru aujourd'hui montre que 56% d'entre eux sont favorables à toutes sortes d'écoutes pour lutter contre le terrorisme.
Alors, pour comprendre comment nous en sommes arrivés à ce sujet, penchons-nous sur l'article du journaliste Vincent Herman, publié en 2019 sur la plateforme Next. À peine un an après le scandale Cambridge Analytica et intitulé « Internet, retour sur 50 ans d'une folle histoire ». Herman, expert dans le domaine de l'informatique, y retrace la trajectoire du réseau Internet, créé à l'origine par et pour l'armée américaine qui est désormais utilisée par le grand public.
L'un des points importants de son texte concerne l'utilisation des ressources du web moderne, notamment dans les années 2010. En 2013, les révélations d'Edward Snowden sur le programme Prism ont fait l'effet d'un séisme dans le monde entier. Ce n'était plus de la science-fiction. La NSA interceptait massivement les données stockées chez les géants du web, par exemple Google, Facebook ou Apple. Cette dérive sécuritaire est indissociable de la façon dont sont gérées les données par les plateformes et leurs partenaires, comme l'a souligné Herman. Cet événement marque la fin définitive du mythe d'un Internet neutre, et plus précisément dans notre cas d'un web neutre. Les questions juridiques et la sécurité informatique sont désormais propulsées sur le devant de la scène. Le réseau est devenu un terrain d'affrontements géopolitiques et commerciaux.
Alors, pour illustrer ce propos, on peut aussi citer le cas très intéressant de l'affaire Cambridge Analytica en 2018. Ce n'était plus seulement de la surveillance des activités, mais une utilisation proactive des données à la fin de manipulation politique. En aspirant les données de plus de 80 millions d'utilisateurs Facebook, cette société a pu dresser des profils psychologiques ultra précis pour influencer des scrutins majeurs comme l'élection américaine de 2016 ou alors le vote de Brexit au Royaume-Uni. Aujourd'hui, l'analyse en continu de nos clics ne sert plus seulement à nous connecter, elle sert à nous profiler.
Pour introduire notre deuxième partie, écoutons une conférence TED du militant Eli Pariser, l'homme qui a théorisé la manière dont les plateformes trient ce que nous voyons à l'écran.
So one of the problems with the filter bubble was discovered by some researchers at Netflix. And they were looking at the Netflix queues and they noticed something kind of funny that a lot of us probably have noticed, which is there are some movies that just sort of zip right up and out to our houses. They enter the queue, they just zip right out. So Iron Man zips right out, right? And waiting for Superman can wait for a really long time. What they discovered was that in our Netflix queues, there's kind of this epic struggle going on between our future aspirational selves and our more impulsive present selves. You know, we all want to be someone who has watched Rashomon. But right now, we want to watch Ace Ventura for the fourth time.
C'est précisément le concept que nous analysons aujourd'hui, la bulle de filtre, théorisée par le militant Eli Pariser en 2011 dans son livre « The Filter Bubble, What the Internet is Hiding from You ». C'est ce phénomène où les algorithmes de recommandation ne nous proposent que des contenus similaires à nos goûts supposés. Il n'est pas forcément accepté par tous les chercheurs du milieu et suscite encore quelques débats. Ce phénomène est complexe car rien n'indique à l'utilisateur comment le contenu est filtré et quelles informations sont rejetées hors de la bulle. Ce qui est expliqué par Gabriel Weinberg, créateur du moteur de recherche DuckDuckGo.
Le sociologue Dominique Cardon, dans son ouvrage « À quoi rêvent les algorithmes ?», nous aide à décortiquer le mécanisme au travers de 4 algorithmes utilisés. Parfois ensemble, par les bulles de filtre, les moteurs de recherche comme Google utilisent principalement l'autorité, le fameux PageRank situé au-dessus du web. Les réseaux sociaux, eux, misent plutôt sur la réputation. L'information y est triée selon les interactions au sein de nos cercles d'amis. En combinant ces familles, les plateformes créent un environnement sur mesure. Récemment, nous en avons eu une preuve flagrante en 2024. Elon Musk a lui-même admis avoir modifié l'algorithme de X, donc anciennement Twitter, pour pousser artificiellement sur le devant de la scène ses propres tweets et ceux de Donald Trump auprès de certains électeurs.
Les conséquences de cet enfermement sont lourdes. Psychologiquement, les bulles de filtre vont dans le même sens que la théorie de la dissonance cognitive de Léon Festinger. Naturellement, l'humain fuit la contradiction pour éviter un malaise interne. Par exemple, fumer alors qu'on connaît les dangers de la cigarette. L'algorithme devient alors une armure numérique. Il flatte notre biais de confirmation et nous cache les opinions contraires. Le danger, une polarisation extrême de la société et une prolifération de fake news, puisque nous devenons imperméables aux arguments adverses.
Arrivé à ce point, connectons nos deux analyses. Quel est le lien entre la surveillance de masse de Snowden et les bulles de filtre de Pariser ? Ce lien, c'est la perte de contrôle de l'individu face à l'infrastructure invisible du réseau.
Il y a une relation de cause à effet directe. La captation massive de nos données décrite par Snowden et reprise ensuite par Vincent Herman dans son article est le carburant de la bulle de filtre. Sans cette collecte invisible de nos moindres faits et gestes, l'algorithme serait incapable de prédire nos comportements aussi précisément. C'est ce que la sociologue Shoshana Zuboff nomme le capitalisme de surveillance, ou autrement dit l'économie de la surveillance, c'est-à-dire la surveillance, le profilage et la prédiction de nos moindres faits et gestes sur des sites web à une grande échelle, ce qui permet entre autres l'alimentation des marchés publicitaires, notamment pour du marketing digital. Nos traces numériques sont monétisées et transformées en armes de prédiction comportementale. Les revenus de Facebook en sont une preuve. 95% de leurs revenus viennent de la publicité ciblée.
Nous sommes passés d'une surveillance d'État traditionnelle, donc coûteuse et centralisée, à ce que Edward Snowden appelle une surveillance low cost et participative. Nous donnons volontairement nos données aux régies publicitaires et grandes entreprises qui y sont liées à chaque clic. Ces régies étant contrôlées par de grandes entreprises, elles monopolisent la place sur le web, bloquant la concurrence.
Le scandale Cambridge Analytica est la jonction parfaite. Ils ont utilisé l'infrastructure de surveillance de Facebook pour injecter des publicités ultra ciblées et anxiogènes directement dans les bulles de filtre des électeurs indécis. L'enjeu de la sécurité informatique a beaucoup évolué. Il ne s'agit plus seulement de protéger le réseau contre des hackers, mais de protéger l'intégrité psychologique et l'autonomie des citoyens face à des interfaces conçues pour les isoler.
Merci beaucoup Noah et Hugo pour votre travail et votre présentation. Il y a les étudiants et les étudiantes de W1 qui vous écoutent aussi dans leur salle habituelle. Et on va passer une musique pour leur laisser le temps de vous poser une ou deux questions si ils ou elles en ont. Et on se retrouve après pour la conclusion. J'ai choisi de passer Sad Statue de System of a Down. À tout à l'heure. Retour pour terminer votre présentation, Hugo et Noah, vous nous avez parlé des révélations autour de l'affaire Snowden et de l'utilisation qui pouvait être faite de ces données, notamment pour des questions de ciblage politique. Vous avez parlé de l'élection de Trump, d'Elon Musk, etc. Et il y avait Clara et Lucie qui demandaient si vous pouviez expliquer un petit peu plus en détail en quoi consiste le profilage. Qu'est-ce qu'on fait en fait pour profiler, comment on s'y prend et qu'est-ce que c'est un profil dans le cas du capitalisme de surveillance, par exemple. Vous aviez évoqué Shoshana Zuboff qui avait développé cette notion. De quoi on parle ?
Déjà le profilage, c'est vraiment tout ce qui est la récolte des données donc sur le web. Donc il peut être de toutes sortes, hein, donc sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on poste, toutes les interactions qu'on a avec les autres. C'est aussi du coup ce qu'on recherche sur les moteurs de recherche. Là où on tape sur nos claviers, là où on clique, voilà, le nombre de fois qu'on clique sur un lien, etc. Et ça va permettre de créer des profils psychologiques, économiques aussi, pour pouvoir fournir à des marques qui sont en lien avec les grandes entreprises du web, des profils qui permettent de vendre, qui vont permettre à ces marques de vendre des choses à ses utilisateurs par l'intermédiaire des pubs qui pourront être passées sur leur canal.
Merci beaucoup pour ta réponse. J'ai l'impression que ça fait écho un petit peu à ce que vous disiez sur les bulles de filtre, parce qu'on peut se demander, là pour le coup j'ai pas la réponse, mais si le fait de profiler et de proposer des choses en fonction de ce profil là, bah, il n'y a pas un petit peu aussi un effet où ça va placer l'utilisateur dans la bulle que les géants imaginent pour lui. Et du coup, je ne sais pas si c'est en lien un peu avec la conclusion que vous vouliez faire.
Si, tout à fait. Les bulles de filtre, du coup, c'est pas un biais d'exposition passif. C'est proactif. Ça permet c'est une exploitation active de nos données pour prédire ce qu'on va faire en fonction de ce qu'on a déjà fait. Et face à cela, la seule chose à faire, c'est être vigilant de manière critique, on va dire, pour essayer notre meilleure arme, du coup.
Merci beaucoup à vous deux. En effet, hein, y a plein de manières de prendre cette pelote de laine très complexe. Mais c'est effectivement une des choses qu'on essaie de faire en W01, c'est de apprendre un peu comment ça marche. Parce que si on n'a aucune idée de comment les choses fonctionnent, c'est déjà de base très difficile de faire, d'imaginer des alternatives. Donc merci encore une fois pour votre travail, Noah, Hugo. On se retrouve d'ici une quinzaine de minutes pour la troisième émission de ce mercredi. À tout à l'heure.